Vous écoutez
RMC. RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
Merci Bernard, c'est une blague de crétin ça.
Mais vraiment Bernard, c'est pas marrant. Hein.
Mais lâche-moi, c'est pas moi, merde.
Jean-Christophe Drouet.
En plus, on adore tellement la fondue. 11h04, on est de retour dans les grandes gueules du sport en direct de l'Alpe d'Huez pour les RMC Sport Game. On est ensemble encore durant une heure avec nos GG, Denis Charvet, Marie Martineau, Sarah Pitkowski, Christophe Cessieux. On va vous parler de Novak Djokovic dans quelques instants. Mais vous le savez, dans cette émission, on fait gagner de superbes cadeaux. On profite forcément de notre venue à la montagne pour vous faire gagner un séjour d'une semaine pour 4 personnes à la montagne d'une valeur de 2000 euros. Inscrivez-vous maintenant en envoyant Neige au 7-32-16. Neige au 7-32-16. Le gagnant sera appelé aux alentours de 11h45, 11h50. Donc soyez très attentifs. Neige au 7-32-16. Tout de suite, l'instant reportage.
RMC, les GG sont sur le terrain.
Un an après ses déboires aux antipodes au sujet de sa non-vaccination à la Covid, Novak Djokovic est de retour en Australie, un retour en grâce pour le Joker, galvanisé par sa tonitruante fin de saison 2022. Le Serbe est évidemment le grandissime favori à Melbourne, où il brigue un 10e Open d'Australie et un 22e tournoi du Grand Chelem. On retrouve notre envoyé spécial Eric Salio en Australie. Salut Eric, comment se passent les retrouvailles entre Novak Djokovic et les Australiens?
Oui, salut les grandes gueules. C'est vrai que tous les projecteurs sont braqués sur Novak Djokovic. Il est de retour à Melbourne après l'épisode dramatico-judiciaire de janvier 2021 qui avait passionné le monde entier. On rappelle les faits. Se croyant bénéficiaire d'une exemption en bonne et due forme, il était arrivé à l'aéroport sûr de lui, mais il avait été retenu de longues heures à la douane. Le Premier ministre voulait frapper un gros coup politique, considérant le joueur non vacciné comme un danger pour la population. Finalement, le Serbe avait été autorisé à s'entraîner à la seule condition d'être hébergé dans un hôtel 2 étoiles réservé aux migrants en situation irrégulière. Et à l'issue d'une guerre d'avocats, le Serbe avait été finalement raccompagné comme un criminel à l'aéroport. En milieu de semaine, au micro de Nine News, il est revenu sur cette période avec beaucoup de franchise et un petit peu de rancœur.
Not great, say narrative in the media about me.
On ne peut pas dire que beaucoup de choses positives aient été écrites sur moi. Les traces sont là. Elles m'ont poursuivi des mois durant. Je n'avais fait que suivre les règles. Mon exemption avait été validée par un panel indépendant d'experts sur un dossier anonyme. Et je suis arrivé avec les bons papiers.
Pour des raisons qui lui appartiennent, bon, et qu'il faut aussi respecter, Novak Djokovic n'a pas voulu se faire vacciner contre le Covid. Il en a payé un prix fort, trop fort à l'entendre, un an après cette bagarre judiciaire.
D'un coup, je suis devenu le vilain aux yeux du monde entier. Croyez-moi, c'était terrible à vivre. Mais j'ai dû apprendre à gérer ça.
En arrivant en Australie, Novak Djokovic avait des doutes sur la manière dont il allait être accueilli. À Adélaïde, il était rassuré. Mais vendredi, à l'occasion d'un match de charité avec Nick Kyrgios, il a éprouvé un véritable soulagement.
C'était super de fouler une Rod Laver Arena pleine à craquer, avec Nick en plus, pour une cause juste. J'étais très ému de la réception du public. Je me demandais vraiment comment cela allait se dérouler après les événements de l'an passé. Je suis reconnaissant pour l'énergie, l'amour et le support que j'ai reçu vendredi soir.
De toute façon, Greg Taillet a prévenu, toute manifestation anti-Joko sera sévèrement punie. La sécurité sera sur ses gardes mardi pour la night session. Le directeur de tournoi se sent peut-être un petit peu redevable. C'est lui qui l'avait incité à prendre l'avion l'an passé. Un an après, Djokovic peut renverser la table. S'il décroche un 10e titre le 29 janvier, il récupérera sa place de numéro 1 mondial. Quel pied de nez ce serait!
Merci beaucoup Eric Salio pour ce reportage au cœur donc de l'aventure de Novak Djokovic qui revient donc en Australie, le tournoi, l'Open d'Australie qui débute la nuit prochaine. Et évidemment, vous allez suivre tous les résultats sur RMC. Alors, la musique qui fout les jetons et cette question après ce reportage d'Eric Salio sur Novak Djokovic. Peut-il enfin être aimé? Oui ou non? Christophe Cessieux.
J'ai du mal à y croire.
Du mal à y croire. Denis Charvet.
Oui.
Marie Martineau.
Non, et Dieu sait que j'aime Djokovic.
Et Dieu sait que j'aime Djokovic, c'est oui.
C'est oui, vous n'êtes pas d'accord. C'est parfait. Les copains, il a du mal à y croire. Christophe Cessieux, pourquoi?
Bah, j'ai du mal à y croire. Alors, effectivement, avec la retraite de Federer et le prochain retrait de Nadal, je pense que tous les gens nostalgiques de cette époque bénie du tennis, parce que je pense qu'on vient de vivre les 15 ans les plus fous de l'histoire de tennis, peut-être que ces gens-là vont se dire, voilà, on n'a plus l'un, on n'a plus l'autre, il nous reste Djoko, donc on va peut-être se rabattre sur lui, parce que c'est un formidable champion.
Par défaut.
Ouais.
Oh, c'est horrible.
Ouais, moi je le vois plutôt par défaut. Alors, évidemment, les fans, les amoureux de tennis pourront un jour l'aimer, parce que c'est un formidable champion, c'est un gagnant, un gagneur, un mec qui lâche rien. Mais il n'a pas du tout le même capital de sympathie qu'avait un Federer ou qu'a encore un Nadal.
Et je pense ça, c'est très objectif, mais si tu restes... qu'est-ce qui change finalement entre avant et la saison qui arrive? C'est quoi?
C'est que les deux sont plus là ou quasiment plus là.
C'est qu'il peut tout gagner. Donc il peut peut-être renverser la table,
c'est ce que nous disait Eric Alliot.
C'est pas en tout gagnant qui
devient sympathique. Ouais, que ça va changer sa sympathie, bah je pense pas.
Ouais, si, en devenant le GOAT, le meilleur de tous les temps, avoir le plus de grands chelems.
Bah non, parce qu'il y en a plein, enfin pas plein, mais il y a des GOAT qui n'ont pas réussi à avoir la sympathie du public. Il pourrait rester en disgrâce malgré le fait d'être le meilleur. Moi je pense qu'il était déjà le meilleur, pas pour autant qu'il avait la sympathie.
Alors il peut devenir peut-être sympathique aux yeux du grand public s'il change un peu sa façon de faire. Et effectivement, ne plus avoir Nadal et Federer.
Mais non, sa force, c'est ce qu'il est, justement. Christophe, donc, qu'est-ce que tu veux qu'il change de sa façon de...
Le match qu'il fait vendredi soir avec Kyrgios, il me fait beaucoup plus rire que Federer ou Nadal quand ils font des exhibitions.
Bah ouais.
Il sait faire le show.
Ouais,
il s'est donné, il s'est communiqué avec le public.
Depuis longtemps.
Moi, ce que j'ai du mal à comprendre, pourquoi on a le sentiment que c'est toujours surfait et que c'est qu'il y a une intention derrière qui est
de plaire, de gagner en sympathie.
Oui, enfin qui a quelque chose derrière et qui est pas spontané. Mais quand il fait des exhibitions, il est capable de faire lever 50 000 personnes.
Tu sais quoi, Sarah, on était ensemble à Belgrade.
Oui.
Finale de Coupe d'Europe. Et ben moi, depuis ce jour-là, j'ai décidé de ne pas l'aimer. Voilà. Donc c'est ad vitam aeternam. C'est un combat personnel.
Qu'est-ce qu'il a fait?
Il a gagné.
Non. Ce qu'il a fait, il est monté sur la chaise d'arbitre. Il a pris le micro et il a parlé donc aux Serbes, donc au public. On ne comprenait rien et en fait il a chauffé le public qui est déjà dans les pays de l'Est, en tout cas dans ce genre de pays qui sont assez violents dans leur supporterisme.
Okay.
Et ben en fait ils ont été survoltés et on a dû
mais
faire
après le match, quoi, avant le match.
Non, pendant tout pendant le match, pendant toute la rencontre.
Il est monté sur la chaise.
Non, il est monté, il a pris le micro et il a parlé au public.
Mais il a pas le droit normalement.
Bah si, je crois que c'était entre deux matchs,
c'était.
Et en fait, il a chauffé à blanc la salle et on s'est fait mais pourrir pendant
mais non, mais,
pendant
mais moi je pense que Djoko, tu l'aimes ou tu l'aimes pas tout simplement, il fait partie de ces personnages là, de ces sportifs là. C'est difficile à expliquer, non? Moi, je l'ai toujours aimé. Donc, pourquoi
moi aussi.
Et puis même, j'aurais du mal à t'expliquer le pourquoi. Mais je pense quand même que le Covid lui fait du bien. Lui fait du bien au niveau de l'image. Ça le rend victime. Ça le rend victime. Ça fait passer. Ah, moi, je le pense.
C'était pas très populaire il y a encore quelques mois, de ne pas se faire vacciner.
Oui, mais quand il est resté, tu vois.
Mais il y a un renversement de situation.
Il y a eu un renversement. Il est passé d'anti-héros à héros, tu vois. Enfin, une espèce de. Moi, je sais pas. Après, je pense qu'on va voir en Australie au premier match.
En Australie, il est adulé.
Mais voilà.
Il est vraiment totalement adulé.
C'est un peu comme Nadal en France, à Roland-Garros. Il a gagné 9 fois.
On est capable de le siffler en demi-finale ou en finale. On n'est quand même pas des.
S'il joue contre un Français.
Mais c'est rare quand même. Nadal, il a toujours été adulé quand même.
Alors pourquoi il y a eu des consignes de données de ne pas le siffler et tout s'il est si adulé?
Je ne sais pas pourquoi ça a été dit. Je pense qu'on savait. Il ne savait pas trop comment le public allait réagir, mais il est totalement adulé. Il a été accueilli.
Il y avait un doute.
Oui, il y a eu un doute pendant.
Eric Salio nous l'a rappelé.
C'est pour ça que je pense que le Covid.
En tout cas, faire passer ce message que toute personne qui sifflerait Djokovic, on viendrait le chercher. Hop, et on le
raccompagnera à la frontière comme on a fait avec Djokovic.
C'est fou, ça dit, évidemment, en Australie, ils n'ont peut-être pas la même perception qu'en France ou ailleurs. Tu l'as rappelé, il est adulé parce qu'il a beaucoup gagné là-bas.
Oui, il a gagné.
Mais ça dit beaucoup du côté un peu clivant de Novak Djokovic. Il y a eu cette histoire en Australie, c'est pour ça qu'on parle des Australiens. Mais c'est vrai que partout dans le monde, Novak Djokovic, et tu l'as rappelé, c'est un peu le troisième larron. Et on ne cesse de le répéter. Peut-être qu'un jour, il deviendra le premier larron. Et on arrêtera.
Je ne suis pas d'accord avec vous, parce que le troisième larron, non, c'est parce qu'il est mal aimé qu'il est troisième larron. Je ne suis pas d'accord du tout avec vous.
Mais si, parce qu'il est arrivé après les deux autres.
Mais il a autant de titres, je veux dire. Arrêtez de dire.
Il est peut-être pas si mal aimé que ça.
Mais le jour où il passe Goat, je pense que ça va se produire.
Tu penses qu'il va cette année, pour toi, aller chercher les 23
titres? Moi, je pense
qu'il peut égaler Nadal sur ce coup-là.
Et donc, ça changera beaucoup de choses.
Il sera 22. Et derrière, peut-être la finale de Roland Garros désignera le GOAT.
Oui, après, il y a Wim et l'US. Gazon. Hein.
C'est ce que je disais.
Et l'US, il n'aura pas le droit d'y aller, a priori, pour le moment, en tout cas.
Les résultats peuvent changer la donne.
Totalement.
Moi, je crois pas.
Je pense que totalement.
Non. Moi, je crois que c'est humain, c'est le comportement. Et du reste, comme il y a des sociétés qui vont apprécier l'humour, le second degré, il y en a qui n'en ont absolument pas. Donc, son comportement à côté de ses performances, c'est ça qui fait qu'il est apprécié ou pas. Donc, je ne pense pas que ce soit le fait qu'il devienne le GOAT.
Je comprends pas, moi.
Enfin, Stephen Brun n'aimera jamais Djoko.
Mais dans ses révélations, je suis désolé, Djoko, il a jamais été agressif.
Non, je veux dire, c'est pas bien.
On fait passer pour un bad boy. On a dit sa gueule pour lui. Parce que
un jour, il amplifiait une blessure. Une autre fois, il jouait avec l'arbitre ou avec le règlement. Il n'hésitait pas à demander un temps mort médical. Il y a eu tout ça, quand même, tous ces trucs-là que tu as oublié.
Depuis 2-3 ans, il est pas comme ça.
T'as la mémoire sélective. Mais bon, rappelle-toi des choses quand même.
Quand il est arrivé sur le circuit, il a quand même des comportements qui ont agacé déjà. Je sais pas si vous vous souvenez, il passait son temps à imiter. Imiter Maria Sharapova, il imitait Raphaël Nadal.
Et ben, tu vois, ça, il y en a qui trouvent ça très drôle. Et
c'est même les joueurs qui lui ont demandé d'arrêter parce que ça faisait un peu too much.
Tu dis ça en te marrant.
Oui, parce que moi, ça me fait marrer parce que je ne suis pas la personne qui a été imité.
Et puis, rappelez-vous aussi des déclarations de son père, anti-fédéraire.
Ouais, mais là, le père, c'est pas.
Mais bon, il était.
Il n'a pas condamné Djoko parce que son père, il est.
Et puis après, il y a eu ses problèmes de respiration où il sortait du cours à l'US Open parce que il avait des. Enfin, c'est là où il a découvert qu'il avait une allergie contre le gluten. Donc en fait, il avait les fameux petites pinces qu'ont les nageurs sur le nez. Il sortait parce qu'il respirait pas correctement. On avait l'impression qu'il faisait du cinéma. Donc en fait, il y a eu ces choses-là qui ont marqué au début de sa carrière.
Ouais.
Mais
c'est difficile de se débarrasser de. C'est comme un sparadrap qui lui colle
exactement.
Au doigt.
Exactement. Mais il y en a un qui a réussi à faire ça dans sa carrière que j'ai toujours admiré. C'est un certain André Agassi qui était détesté du public.
Et à la fin, il a été aimé.
Et en fait, à la fin, il a été adulé.
Je vous dis que 10 ans,
il a changé de comportement.
Dans 10 ans,
vous verrez Djoko, c'est un mec. Moi, je pense que maintenant, c'est un bon mec.
Ouais, je suis persuadé aussi.
Je pense que c'est un bon mec, il changera tout et tu verras, ça deviendra une énorme légende. Enfin, je veux dire.
Peut devenir barbarien de ce nom.
Oui.
Ah, yes. Il a les valeurs. Sarah, toi qui as bossé à la com de la Fédé, toi qui as aussi organisé Roland Garros, est-ce que tu t'es aperçu que Novak Djokovic avait ce côté un peu clivant et qu'il fallait peut-être faire un petit peu attention avec lui? Est-ce que ça t'est remonté?
Oui, de toute manière, il faut savoir que dans les tournois du Grand Chelem, ces joueurs-là ont un accueil qui est personnalisé. Ils ont une forme de conciergerie pour qu'ils soient dans les meilleures conditions. Mais c'est pas un traitement de faveur et c'est pas le fait qu'ils soient adulés ou pas adulés. C'est qu'on a besoin que ces joueurs-là, ils soient au top de leur forme et qu'ils soient au top de leur performance parce que c'est eux qui portent exactement pour le spectacle. Donc c'est dans cette dimension-là et en fonction de la demande du joueur. Donc si lui se sent un peu se sent un peu agressé ou il se sent un peu en délicatesse avec le public, oui. Les organisations de tournois
donc
feront
vous,
en sorte.
Vous le mettez dans une bulle ?
C'est pas une bulle. C'est tu mets les meilleures conditions pour qu'il performe. Tu pourrais prendre ça pour des caprices, mais ça ne l'est pas parce que chaque joueur a son organisation et on fait en sorte qu'il soit dans les meilleures conditions.
Ma question, c'était un peu est-ce que vous étiez en train parfois de traiter Novak Djokovic différemment qu'un Nadal ou un Federer ?
En tout cas, ces demandes sont écoutées autant que celles de Nadal, d'un Federer, de Maria Sharapova, de Serena Williams, de Osaka. On a plus été sur les dents face à une Naomi Osaka dont on avait peur qu'elle pète une durite en conférence de presse qu'un Novak Djokovic par exemple.
Mais est-ce que Novak il est colérique par exemple dans le milieu ?
Non.
Donc, non mais ça qui est important, je veux dire, c'est pas un mec qui est caractériel.
Non, il est pas plus caractériel qu'un autre et il sait dire bonjour aux gens quand il arrive dans un endroit. Voilà. Si vous voulez mon avis, je pense que Federer est un petit peu.
Oui, on entend.
Mais ça, c'est que mon avis.
Et voilà.
Ok, ce sera un autre débat, évidemment. Nous allons reprendre la direction de Wengen avec Arnaud Souk, parce qu'on vous l'avait promis. Il y a le fils de Bastoun qui est resté avec nous en direct sur RMC, Steven Amier. C'est à toi, Arnaud Souk.
Ben, c'est une mauvaise nouvelle à vous donner. Steven Avier ne verra malheureusement pas pour lui la deuxième manche. DNF, Deep Not Finish sur cette terrible piste de Wengen. Il n'est pas le seul aujourd'hui. Ils sont une quinzaine pour l'instant à ne pas avoir terminé sur les 46 premiers skieurs engagés donc dans cette course de Wengen, dans ce slalom du Lauberhorn. Je vous rappelle que Meyer, Christoffersen et Bratten, le Suisse et les deux Norvégiens, dominent pour l'instant les débats. Clément Noël termine septième de cette première manche et Alexis Pinturo, lui, termine 12e, et pour tout vous dire, 12e à 3 secondes 18, c'est vous dire la difficulté aujourd'hui. La qualif se joue à 5 secondes 66. Je sais pas si vous vous rendez compte.
Est-ce que ça veut dire que ça laisse de la chance, une chance à un Léon Anguenaud qui part vraiment très très loin?
Et pourquoi pas? Parce que 5 secondes 66, il y a encore des gros dossards. Il y a beaucoup de gros dossards qui sont rentrés. Dossard 44, dossard 40, dossard 42, dossard 39, dossard 36 qui sont rentrés. Donc il y a vraiment une porte qui peut s'ouvrir effectivement pour Léon Anguenaud et pour Paco Rassa. Je vous rappelle que Léon Anguenaud a notamment fait sa première qualif en deuxième manche de Coupe du Monde. Alors c'était en slalom géant, c'était la semaine dernière, sur la piste d'Adèle Bodden. Mais voilà, peut-être que ça lui a donné de la confiance à Léon Anguenaud qui s'élancera tout à l'heure avec le dossard numéro 67. Dans quelques minutes, Paco Rassa, un autre Français dossard 52, va s'élancer. La mauvaise nouvelle, donc Steven Amier qui ne verra pas la deuxième manche.
Reste avec nous Arnaud Souk, on va vous parler des femmes dans quelques instants et le Super G. La réaction du papa, hein, forcément très triste après cette sortie. Et on a vu ton fils, hein, il était très énervé de sortir aussi vite.
Ouais, c'est frustrant, c'est le slalom, c'est que tu peux enfourcher la première porte, là c'était la troisième, et voilà, il y avait peut-être un petit coup à jouer encore aujourd'hui, mais next time, c'est le métier qui rentre, c'est voilà, l'apprentissage, et dans des conditions dures qu'on voit les grands skieurs aussi, mais voilà, ça passe pas aujourd'hui, ça passera peut-être dimanche prochain à Kitzbühel. Donc c'est tout le mat qu'on leur souhaite, et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est le combat, c'est pas facile, hein. On l'a vu dès les premiers dossards.
Ça a l'air même impossible là, de partir avec ce genre de dossard et de finir.
C'est voilà, il faut skier juste, skier aussi avec la tête, mais c'est jamais facile dans des conditions difficiles de tout mettre en avant, parce qu'il faut mettre l'engagement, il faut être juste, il faut pas faire trop de chemin, il faut pas faire les fautes, donc ça crée beaucoup de paramètres. Mais en tout cas, il y en aura 30 classés à la première manche, et ceux-là ont la chance de voir la deuxième manche.
Arnaud Souk, le Super G dames qui va bientôt débuter, c'est dans 10 minutes.
C'est à Saint-Anton, et ça a même d'ores et déjà débuté ce Super G dames. Une seule skieuse pour l'instant sur les trois élancées est arrivée en bas. C'est la Norvégienne Kajsa Wikoff Lee qui réalise de par le fait le meilleur temps pour l'instant. Ça s'est pas bien passé pour Laura Gaucher qui ne terminera pas donc ce deuxième Super G dans la station du Tyrol de Saint-Anton. Il va falloir relever un petit peu le niveau pour Roman Miradoli qui avait réussi à se placer sur un podium depuis le début de la saison en Super G, et qui malheureusement pour elle hier a pas forcément réalisé une très très bonne course. En revanche, Tessa Worley qui partira avec le dossard numéro 19 dans une petite demi-heure désormais, voilà, devra confirmer elle les bonnes choses entreaperçues hier. Elle est vraiment passée à un cheveu de signer son premier podium en carrière sur Super G, Tessa Worley. Donc on espère aujourd'hui que sur cette piste de l'Alberg Kandar de Saint-Anton, qu'elle pourra, et eh bien pourquoi pas, passer le petit cran supérieur et être la cinquième française et français à monter sur un podium de Coupe du Monde cette année.
Merci beaucoup Arnaud, on te retrouve pour le passage des Français évidemment pour la deuxième manche aussi du slalom de Wengen avec nos deux Français Alexis Pinturo et Clément Noël. On va terminer ce débat sur Novak Djokovic. C'était peut-il enfin être aimé sur le plan sportif? Il y a un vrai coup à jouer, Sarah Pitkovski, un vrai coup à jouer pour lui, parce que là c'est la saison où il doit devenir le GOAT, en tout cas on l'attend comme tel.
Oui, c'est la saison effectivement où il peut déjà, après un grand chelem, retrouver la place de numéro 1 mondial, sachant qu'il a joué un tiers de saison l'année dernière, qu'a priori les États-Unis ne lui ouvriront pas les portes parce qu'il semblerait qu'effectivement il faille un vaccin pour jouer les tournois, la tournée américaine en mars. Donc est-ce que pour l'US Open on aura rouvert les portes? Ça reste quand même un gros point d'interrogation.
Lui paraissait résigné, hein. Il dit bon, oui. Bah voilà, si je peux pas y aller,
Il lui en restera 3 à jouer cette année. Oui, et puis on est sur un passage de témoin avec une autre génération qui n'a peut-être pas encore les épaules pour s'imposer en termes de charisme, hein, je parle. Alcaraz, il est idolâtré, mais voilà, il n'a pas encore le charisme des tout meilleurs mondiaux, même s'il est numéro 1 mondial. Et puis après, il y a
l'interrogation Nadal à Roland.
Oui, il y a l'interrogation Nadal, mais je ne pense pas que Nadal jouera une saison entière. Je le vois pas jouer une saison entière. Il les a pas faites sur les années précédentes. Il va se concentrer sur effectivement Roland-Garros. Donc oui, il y a une place à prendre dans le cœur des fans de tennis. Et puis surtout, il y a une place à reprendre en haut de la hiérarchie du tennis mondial.
C'est important, ça, la place de numéro un mondial.
Ah ouais. Ah bah oui.
Et plus que les grands chelems à jouer là.
Non. Tu as le nombre de grands chelems et tu as le nombre de semaines en tant que numéro un mondial. Et oui.
C'est les deux stats les plus importantes, ça.
Oui,
c'est le record aujourd'hui.
Là, tu me prends.
Federer, non ?
Non, je pense pas que
Nadal,
ça soit
Nadal, alors.
Oui, c'est possible que ça soit Nadal. Oui, puisque Nadal joue plus que Federer.
Mais il l'avait annoncé d'ailleurs il y a quelques années en disant moi, je veux être. D'ailleurs, on avait fait un débat dans les grandes gueules du sport. Moi, je veux être le plus longtemps possible numéro un mondial.
Ouais, ouais.
Et c'est vrai que ça pouvait prêter à sourire. On se dit. Oh, le nombre de semaines numéro un mondial.
Non, pas ça. Tu as le nombre de Grand Chelem et puis tu as le nombre de Master Series. Et le nombre de tournois, après, le nombre de tournois gagnés sur toutes les surfaces. Parce que on sait que, comment s'appelle-t-il?
C'est l'NBA, le tennis.
Djokovic a gagné sur toutes les surfaces, ouais, indoor et outdoor. Ce qui n'est pas le cas d'un Nadal, par exemple. Ou d'un Federer. Donc voilà, ce sont des stats que les tout meilleurs mondiaux peuvent se permettre d'aller chercher ou de se fixer comme objectif.
373 semaines.
Pour Nadal ?
Consécutive, non, c'est pour Novak Djokovic. C'est pour,
consécutive, hein. Consécutive. Là, on est en consécutive.
Au total, pardon, au total. 373 semaines. Oh, c'est le leader, Novak Djokovic. Évidemment, on en reparlera durant la quinzaine de l'Open d'Australie qui débute cette nuit. Ouais. Il est 11h24, on revient dans quelques instants pour les grandes gueules du sport, toujours en direct de l'Alpe d'Huez. Nous allons justement vous parler de cette magnifique station avec le directeur de l'Office du Tourisme dans quelques instants. Et n'hésitez pas, c'est votre émission, vous le savez, vous composez, vous appelez le 3216. Attention, Denis Charvet, on t'entend dans le micro. Le 3216 pour les auditeurs, tu poseras tes questions juste pendant la pub. Le 3216, vous nous appelez si vous voulez réagir à nos débats. On a parlé de ski alpin, on a parlé de Novak Djokovic, on a parlé aussi d'Anne Hidalgo, maire de Paris, qui ne veut absolument pas vendre le Parc des Princes au PSG. Ça vous fait réagir, je le sais, le 3216, c'est dans une dizaine de minutes. A tout de suite sur RMC.
RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
C'est trop dur, parce que la neige, elle est trop molle pour moi. J'y vais, mais j'ai peur.
Jean-Christophe Drouet.
11h28, on est de retour dans les grandes gueules du sport avec nos GG ce matin, Sarah Pitkowski, Marie Martineau, Denis Charvet, Christophe Cessieux, un week-end au cœur de l'Alpe d'Huez pour les RMC Sport Games. On a été magnifiquement accueillis, comme à chaque fois on a pu vous parler de ski. Dans 3 semaines, il y aura les mondiaux à Courchevel, Méribel. Évidemment, ce sera à suivre sur RMC. Tout de suite, nous allons accueillir monsieur le directeur. Sachez que dans une dizaine de minutes, vous composez le 32-16. C'est à vous de jouer les auditeurs si vous voulez réagir et affronter une GG sur un sujet du jour. François Badjili, directeur de l'Office du Tourisme de l'Alpe d'Huez, est avec nous. Bonjour François.
Bonjour à tous.
Hello.
Pardon François.
Bonjour à tous.
Bonjour. Comme ça. Bonjour.
Merci d'être avec nous. Comme chaque saison, on a envie de parler de l'Alpe d'Huez. Et encore plus, j'ai envie de dire, cette saison où on sait qu'il y a des difficultés climatiques, on sait que la saison n'a pas forcément été très bonne, on sait que les dernières saisons avec le virus a été difficile. Vous vous situez où cette année? Est-ce que c'est une année véritablement difficile pour vous ou non? Pour l'instant, elle se passe bien.
Alors nous, on est solidaires de nos amis des autres stations qui souffrent un petit peu du manque de neige, mais c'est pas notre cas. L'Alpe d'Huez, c'est une station d'altitude, hein, on monte à 3330 mètres, donc on est ouvert depuis le 2 décembre. Et au minimum, on avait 90% du domaine skiable qui était ouvert. C'est-à-dire que donc, de 3003, on peut rentrer jusqu'à la station, même en dessous de la station, jusqu'au village d'Huez. On fait une très très bonne saison. Parce qu'effectivement, en plus de notre clientèle traditionnelle, on a un apport de clientèle de petites stations aux alentours qui vient renforcer notre fréquentation. Donc voilà, donc année compliquée pour certains. Et puis pour les quelques stations d'altitude, une très très bonne année. On est à 4 points au-dessus de l'hiver dernier, qui était notre saison record.
François, on est assez pessimiste. On entend beaucoup de Cassandre dire que le ski n'existera plus dans quelques années parce que justement réchauffement climatique. Ou alors, en tout cas, il va devoir monter en altitude. Et effectivement, l'Alpe d'Huez a sa place à prendre là-dedans parce que c'est une station qui va très haut. Est-ce que tu penses que dans quelques années, justement, on ne pourra skier que dans ces stations de très haute altitude?
Je te le dirai dans quelques années, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des grandes différences dans les stations. Il y a des stations de vallée. des stations qui sont à 800 mètres, qui culminent à peine à 2000. Bon, nous, on commence à 1800, on monte à 3003. Donc, effectivement, la tendance actuelle du réchauffement, et personne le renie, est favorable aux stations d'altitude. Mais je pense que la montagne, ça fait longtemps qu'elle a pris le problème à bras-le-corps. C'est vrai que malheureusement, souvent, on entend beaucoup de gens très pessimistes, très négatifs. En ce moment, souvent, dans les images de la télévision, on voit que les stations qui n'ont pas de neige. C'est dommage de montrer les stations qui ont de la neige. Mais comme nous disent certains journalistes, les trains qui arrivent à l'heure, on ne les aime pas.
Oh non, c'est pas qu'on les aime pas, on n'a pas besoin d'en parler.
Ouais,
c'est ça.
Bien, mais... c'est dommage parce que je pense que par les temps qui courent, ce serait bien de mettre un petit peu d'optimisme et de sourire dans la tête de nos amis citadins, qui ça doit pas être tous les jours facile pour eux. Et c'est vrai que quand ils arrivent en vacances chez nous, ils ont la banane et on aime ça.
Pas très bien. Moi, je voulais savoir. Le ski a évolué hein, sur ces 10-15 dernières années. On vient plus nécessairement à la montagne que pour faire du ski alpin, c'est-à-dire que les disciplines se sont vraiment multipliées. Qu'est-ce qu'on peut faire à l'Alpe
On peut faire du vélo. Essaye de les monter les.
Oui, mis à part les lacets. 21 lacets qu'on a tous fait en tant que sportifs de haut niveau, plus ou moins difficilement d'ailleurs. Quelles sont les pratiques qui connaissent vraiment un engouement autre que le ski alpin?
Alors, Sarah, tu as raison, mais je vais mettre un tout petit peu un bémol. Effectivement, il y a plein d'autres choses que le ski alpin hein, qu'on peut faire en station, que ce soit le ski de randonnée, qui a vu ses lettres de noblesse pendant la période du Covid, où on nous avait fermé la montée mécanique. Hein.
C'est clair.
Je vous rappelle qu'on n'avait pas le droit de monter sur un télésiège en plein air, mais qu'on pouvait prendre le métro. Mais bon, ça, c'était un autre sujet. Hein, on est d'accord.
Pays des contradictions.
D'accord. Ça reste en travers de la gorge de tous les gens.
Bien sûr, je pense que ce qu'on a fait à la montagne cette année-là, on n'aurait jamais osé le faire au bord de la mer. Mais bon, c'est encore un autre sujet. En tout cas. Effectivement, le ski alpin n'est pas suffisant. Il y a plein d'autres choses. Par contre, je tiens juste à rajouter que s'il n'y a pas le ski alpin, il n'y a pas le reste.
D'accord. Donc
c'est le ski alpin qui génère l'économie. Tout à fait.
Ça reste le produit d'appel. Et après, on offre d'autres choses à d'autres membres de la famille.
Exactement. La moyenne d'un skieur, c'est entre 3 et 4 heures sur les planches. Donc sur une journée de 24 heures, même si on dort 10 heures, il y a encore quelques heures à occuper.
François Balgili, directeur de l'Office du tourisme de l'Alpe d'Huez, est avec nous. Et les GG, vous avez beaucoup de questions à lui poser. Non, Denis Charvet.
Est-ce qu'il y a à craindre que les abonnements augmente sensiblement.
Alors, le prix des forfaits.
Le prix des forfaits, pardon. Okay.
Oh, c'est déjà le cas, non?
Non, mais on entend parler qu'avec la crise de
combien ça coûte
l'électricité, tout ça.
Le forfait journée à l'Alpe d'Huez coûte 58 euros, ce qui est à peu près le cas dans toutes les plus grandes stations françaises. Pour vous donner un ordre d'idée, à Whistler ou à Veil, c'est 150 euros.
150 euros.
Oui, après c'est le système américain.
Donc amener ou pas à monter ou pas forcément.
Alors nous on a choisi de ne pas répercuter le coût d'énergie. Hein. Je vous donne juste quelques chiffres. Nous en termes énergétiques, la remontée mécanique, une saison normale c'est 2 millions d'euros. Quand on a là en fin d'année dernière, quand on a commencé à parler des augmentations, on nous a proposé 20 millions d'euros. D'accord ? Fois 10. On en est tombé aujourd'hui à 9. S'il y a les aides de l'État, on tombera à 6. Ce qui veut dire quand même qu'on triple notre facture. Et on a fait le choix de ne pas répercuter ce surcoût sur le forfait journalier. Donc il est à 58 comme il était prévu depuis un an. C'est à peu près, c'est même pas l'inflation. Donc voilà. Après, donc 58 euros pour une journée, c'est un budget. Hein. Si vous venez à 4, ça fait une somme. Moi, j'aime bien toujours dire que, par exemple, 20 minutes de pédalo, ça coûte 10 euros.
30 euros de l'heure. La semaine, c'est combien par exemple? La semaine?
C'est environ 300 euros à forfait semaine.
Donc tu payes aussi un peu en pédalo.
8 euros de moins, quoi, non? À peu près?
Non, pas 8 euros de moins. Si tu fais 6 ou 7 fois 58, ça fait pas 8 euros de moins.
Non, mais à peu près, c'est combien le.
Non, mais donc,
un forfait semaine, c'est 300 euros environ pour un adulte. En plus, bon, après, il y a un tas de formules où quand on est en famille, il y a des réductions. Si on le prend sur Internet, il y a des réductions. Beaucoup de gens passent par de l'intermédiaire avec soit leur comité d'entreprise, ainsi de suite. C'est très rare, les gens, en fait, qui payent le tarif, entre guillemets, public.
François, c'est vrai que quand on n'est pas forcément habitué de ski, et forcément, vous en avez beaucoup, il y a des habitués, mais il n'y a pas que des habitués. Il y a des gens qui veulent découvrir des nouvelles stations. L'Alpe d'Huez, c'est une station évidemment renommée par le Tour de France aussi, parce qu'on peut aussi venir ici l'été. Hein, la montagne, c'est toute l'année. Et venez profiter l'été de l'Alpe d'Huez ou d'une autre station, c'est vraiment absolument incroyable. Pourquoi choisir l'Alpe d'Huez, hormis sur le nom? Quels sont les côtés positifs de cette station?
Alors, on vient d'en dire un, c'est l'altitude, donc c'est cette garantie neige. Après, comme le disait Sarah, c'est aussi la palette d'activités qu'il y a sur l'Alpe d'Huez. Hein. Il y a un palais des sports avec 17 activités sportives, il y a une piscine extérieure, il y a une patinoire. Il y a un encadrement qui est super. Et je crois surtout ce qui fait la différence de l'Alpe d'Huez avec un certain nombre de nos concurrents. Et je crois que vous l'avez vécu, et c'est pour ça aussi que vous aimez venir à l'Alpe d'Huez. C'est la relation qu'on installe avec les gens. On est très attaché aux relations humaines. On est très attaché à faire, à partager la passion qu'on a de la montagne et de notre environnement, qui est notre fond de commerce. Nous, on a choisi de vivre ici pour certains. Certains ont eu la chance d'y naître. Et on aime le partager. Et les gens adorent ça, revenir, savoir qu'ils sont reconnus, et cette ambiance avec leurs moniteurs, avec leurs commerçants préférés, leur petit resto, la petite crêpe après le ski, ça fait beaucoup pour la différence.
Alors moi j'ai une petite...
Marie-Martine.
Oui, parce que quand j'arrive en bas de la montée de l'Alpe d'Huez, en général, je me mets en mode Orivadanen et j'arrive en haut et Pierre vomit. Et cette année, je suis...
On est vraiment en direct là.
Ouais. Donc cette année, je suis avec mon bébé, donc j'ai pas fait Orivadanen pour monter. Je suis montée doucement, mais Pierre est quand même arrivé en haut en ayant envie de vomir parce que tous ces petits panneaux habituels avec le nom des cyclistes, Fausto Coppi, tout cela qui était d'habitude à chaque virage, il avait au moins le temps de regarder, et dire ah ouais, salut. Et ben là, il appelle. Mais et ils ont disparu. Et vous avez remplacé ça par des panneaux avec des Gérard Jugnot, des acteurs, Omar Sy, tout ça. Et donc ma question est toute simple, pourquoi ?
Alors Marie, malgré le fait que tu es montée un peu moins vite, tu as dû monter encore trop vite pour voir que les panneaux ils sont toujours, mais qu'il y a
de nuit. Hein.
Ah non, on peut pas toucher aux 21 virages et aux panneaux qui sont sur la route. Par contre, à partir de demain, on a notre 25e édition du Festival de films de comédie, et pendant juste cette semaine-là, ponctuellement, on double les panneaux avec tous les présidents qui ont été pendant ce Festival de films de comédie. Cette année, ce sera Karine Viard, notre présidente.
Et elle sera dans quel virage ?
Dans le 26e, donc on est en train d'en rajouter sur la station. On avait eu cette idée-là l'année de la 21e édition, ouais. Un clin d'œil au 21 virages. D'accord. Ça a plu beaucoup, donc on continue. Et donc voilà, c'est pour ça que vous voyez Omar Sy, Kadel Mayed, Kelmerad, José Garcia, vous les retrouvez au bord de la route. C'est un bon clin d'œil aussi entre l'hiver et l'été.
François Badgili, directeur de l'Office du tourisme de l'Alpe d'Huez, est avec nous.
Christophe, qu'est-ce qui fait justement le plus pour la renommée de l'Alpe d'Huez? C'est le ski, ce domaine incroyable, l'arrivée à 3300 mètres, où effectivement, le mythe du Tour de France, c'est 21 virages, les plus grands champions qui sont imposés ici à l'Alpe d'Huez. C'est millions. Moi, je viens tous les étés sur le Tour, et c'est toujours la montée la plus impressionnante de l'histoire du Tour, avec le virage des Hollandais, le virage des Noirs. Il y a un monde dingue. Qu'est-ce qui fait le plus pour la renommée de la station?
Alors, comme on vient de le dire, on est une station de ski, mais sans conteste, il n'y a aucune personne à l'Alpe d'Huez qui te dira le contraire. La renommée a été faite grâce au Tour de France. Quand vous allez dans le monde entier, vous dites Alpe d'Huez, ils vous disent Tour de France.
Ah oui.
Il nous arrive l'été d'avoir des clients qui nous demandent ce qu'on fait l'hiver. Voilà. Donc énorme notoriété avec le Tour de France.
Incroyable.
Un petit rajout, c'est que depuis quelques années, on a un autre événement qui concourt beaucoup à notre notoriété, pas sur les mêmes publics. C'est le festival Tomorrowland, qui est connu dans le monde entier, qui est un gros festival électro qu'on a au mois de mars.
Ah ouais. François, évidemment, on parle souvent du ski et nous sommes là pour faire aussi du ski et nous venons à chaque fois soit en décembre, soit en janvier, donc nous venons l'hiver. C'est un cliché de dire que la montagne, de plus en plus de personnes l'été s'en approchent plutôt qu'aller sur la Côte d'Azur ou sur l'océan Atlantique.
Non, c'est pas un cliché, hein, c'est une réalité. Il y a eu une période un petit peu compliquée pour le tourisme estival en montagne, parce que la montagne l'été avait une image un peu trop sportive. On avait l'impression que si on n'avait pas des gros mollets, que ce soit pour faire du vélo ou pour faire de la randonnée, on pouvait pas passer de bonnes vacances à la montagne. Alors qu'aujourd'hui, l'envie de grands espaces, de nature, de pouvoir se retrouver en famille ou avec les copains, eh ben ça marche bien à la montagne et c'est très dynamique. C'est très court la saison d'été, hein, c'est juillet et août en général. Nous on démarre à la mi-juin jusqu'à la fin août. Il y a beaucoup d'événements dans tous les styles. Ça va du triathlon bien sûr à la marmotte, la méga avalanche en VTT, mais aussi un national de pétanque, une grosse fête de l'air avec la patrouille de France. Donc je dis toujours que l'été, pour s'embêter à la montagne, particulièrement à l'Alpe d'Huez, faut faire beaucoup d'efforts
et aussi pour s'embêter l'hiver d'ailleurs. Est-ce que on parlait des conditions météo, les conditions climatiques, est-ce que vous commencez à retarder un petit peu le début de la saison de ski ou pas forcément?
Non, au contraire, hein, je crois qu'on essaye tous d'ouvrir le plus tôt possible parce que c'est là que les skieurs ont envie. Ils ont des fourmis dans les pieds, ça fait 10 mois qu'ils n'ont pas skié. Alors que sur les fins de saison, c'est un peu plus compliqué. Déjà, à partir du mois de mars, il n'y a plus personne qui parle de neige. On a envie de mettre des tongs, des mini-jupes. Donc voilà, donc plus tôt on démarre et mieux c'est.
Ok, ça se situe quand? C'est quoi, c'est fin novembre?
Nous, on ouvre systématiquement la station le premier week-end de décembre. Et si la neige le permet, les week-ends qui précèdent.
Et pourtant, les vrais passionnés de ski ou les vrais passionnés de nature, ski au mois de mars, il n'y a rien de tel. Les journées sont plus longues, la température
température est moins froide. La neige de printemps, moi j'adore ça. Franchement, c'est super sympa de skier au mois de mars.
Hein. Et c'est pour ça que Christophe Cessieux est régulièrement absent au mois de mars dans les grandes gueules du sport. François Balgili, directeur de l'Office du tourisme de la Peu d'Huez, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir accueillis une nouvelle fois. RMC, les grandes gueules du sport et toutes les différentes émissions. Et merci aussi à l'hôtel Les Grandes Rousses pour leur accueil. Merci François.
Merci, c'est un plaisir. Et puis alors cette année, je vous dis pas l'année prochaine, puisque vous revenez cette année.
Exactement. Exactement. Au mois de décembre, on prend rendez-vous. Merci beaucoup François. Il est 11h41, un point sur le ski et le géant d'âme avec Arnaud Souk.
Super. Avec Roman Miradoli qui va s'élancer dans quelques instants. C'est bel et bien un super G. J'ai entendu quelqu'un chuchoter. C'est un super G. Oui, c'est un super G. Pour Roman Miradoli qui va devoir remettre les pendules à l'heure après sa performance plus que moyenne hier sur cette piste de l'Albert Kandar à Saint-Anton. C'est un super G vraiment au format très raccourci parce que le manque de neige touche également le Tyrol en Autriche. On a beau s'appeler Saint-Anton, être l'une des stations européennes au domaine le plus large, peut-être même le plus large d'Europe, et bien c'est pas pour autant qu'on arrive à mettre de la neige partout et à toutes les altitudes. Et donc voilà, ça nous donne un super G raccourci, une manche de 1 minute 15 aujourd'hui pour Roman Miradoli et ses concurrentes. 42 centièmes de retard au deuxième intermédiaire pour Roman Miradoli. Pour l'instant c'est la Suissesse Lara Gut Berami qui domine. Elle est voilà dans les temps intermédiaires à peu près dans le paquet. Roman Miradoli en 6-7ème position pour l'instant. Elle va passer au 3ème inter dans quelques instants. Roman Miradoli, on va voir ce que ça donne. Elle a 67 centièmes de débours, 6ème temps intermédiaire pour Roman Miradoli. Allez, il va falloir peut-être accélérer un petit peu, en tout cas ne plus perdre de vitesse sur le bas pour respirer, pourquoi pas venir se classer sur le podium. Ça semble accessible pour Roman Miradoli, le podium qui est à 8 dixièmes de Lara Gut Berami. Roman Miradoli qui va en terminer dans quelques instants le dernier gauche-droite pour Roman Miradoli. Elle va passer sous l'air, dans l'air d'arrivée pardon, et ça sera 1 seconde 02 5ème position pour Roman Miradoli qui sera forcément un petit peu déçu de ne pas avoir réussi à monter sur le podium, mais elle a aussi le curseur par rapport à hier et c'est plutôt de bon augure à quelques semaines des championnats du monde. Juste un petit mot de Wangen, la fin de la manche de slalom, ça s'est pas bien passé pour nos derniers français, que ce soit Paco Rassa ou Léo Anguenaud qui sont tous les deux sortis. Donc il n'y aura que deux français qualifiés en deuxième manche, Clément Noël 7ème et Alexis Peintureau 12ème. Ça jouera potentiellement le top 5 pour Clément Noël, podium ça sera un petit peu plus compliqué, et puis pour Alexis Peintureau déjà si on rentre dans le top 10 ce sera très bien. Juste pour vous dire, 71 coureurs engagés en première manche sur le slalom, il n'y a eu que 41 coureurs à l'arrivée. Autant vous dire qu'il y a eu énormément de casse aujourd'hui.
Exactement. Merci beaucoup Arnaud Souk pour toutes ces précisions. On revient dans quelques instants pour la dernière ligne droite des grandes gueules du sport. Le grand gagnant de notre jeu, un séjour à la montagne, a gagné en envoyant neige au 7-32-16. Et puis vous, les auditeurs, vous avez composé le 32-16 pour interpeller les GG. À tout de suite.
RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
Oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher.
Jean-Christophe Drouet.
11h47 de retour dans les grandes gueules du sport. À partir de midi, les paris RMC, on vous donnera toutes les cotes, notamment sur cette journée de Ligue 1 et ce match ce soir entre Rennes et le Paris Saint-Germain. Tout de suite, on accueille notre grand gagnant.
RMC vous envoie une semaine à la montagne.
Une semaine à la montagne grâce à RMC et nous allons accueillir Alexandre. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Alexandre, si je te dis que tu viens de gagner un magnifique séjour à la montagne, séjour d'une valeur de 2000 euros, quelle est ta réaction ?
Yeah !
On aime cette réaction. Tu vas souvent à la montagne ou pas ?
J'y vais un peu, hein. J'adore le ski, donc j'espère bien pouvoir en profiter, quoi.
Écoute, tu as une famille autour de toi, tu vas y aller avec qui, tu sais déjà ?
Je vais y aller avec ma femme et mon fils, et puis voilà, quoi.
Est-ce que tu accueilles un grand garçon comme moi ?
Voilà, peut-être quelqu'un de ma famille, mon frère.
Ah oui, d'accord.
Là, tu viens de te prendre un vent, mais.
Ce vent en direct me fait mal au cœur. Ouais. Vous savez quoi, Alexandre, tu viens de perdre le cadeau.
Il fallait pas répondre ça, c'était une question piège.
Ne t'inquiète pas, Alexandre. Félicitations, bravo à toi et merci de ta fidélité à RMC. Et profite bien donc de ce séjour à la montagne. Merci beaucoup, en tout cas, mon cher Alexandre. Tout de suite, les auditeurs.
RMC, les grandes gueules du sport, et vous.
C'est à vous de venir affronter une GG. Vous composez le 32-16. On accueille Cyril pour débuter. Salut Cyril.
Oui, bonjour. Déjà, merci de me recevoir à l'antenne.
Salut, Cyril. Avec grand plaisir. Tu veux t'attaquer à qui ce matin, mon cher Cyril?
Moi, c'est pas m'attaquer, c'est un gros bravo à Thibaut Pinot pour sa carrière. Et en tant que spectateur et pratiquant de cycliste, surtout dire qu'il part à temps, en fait. Il fait pas l'année de trop. Là, tout le monde va l'aduler, va l'applaudir sur le bord des routes. C'est ce qui va se passer, je pense. Et puis, en plus, je vous entendais parler de qui peut le remplacer. À part Julien Alaphilippe, je vois pas quelqu'un qui ait son aura et son saniac pour pouvoir regagner des courses. Donc, voilà. Moi, je vois que Alaphilippe parce que Gaudu, tout ça, ce sont des super coureurs et respect. Mais par contre, Thibaut Pinot, il a quelque chose en plus. Certes, il n'a pas le palmarès, mais je trouve qu'il avait quelque chose. Quand il était au départ d'une course, on savait qu'il était là. Il y a un certain charisme par rapport à sa présence et tout, qu'on a du mal à voir, à part chez Alaphilippe. Et respect aussi, qui vraiment fait retraduit ça. Donc c'était pour dire ça. Et puis pour dire aussi qu'il part à temps, comme beaucoup de champions ont fait, comme Fourcade, Bernard Hinault, Zidane. Alors que je vois un Merckx, je ne sais pas si vous vous rappelez de sa fin de carrière, moi j'ai 56 ans, il a fini pathétiquement chez Fiat, il finissait à la 15e place, alors que le gars il avait tout gagné, il avait fait 5 Tours de France, oui. Le Giro.
Il n'y a que Christophe qui s'en souvient, c'était, il était déjà journaliste, il commentait déjà sur RMC, c'était incroyable. Non mais Christophe, moi j'aimerais l'interpeller parce que tu as dit quelque chose de juste au niveau de l'aura, de la popularité, toi aussi tu as l'impression que Julien Alaphilippe c'est un peu l'équivalent de Thibaut Pinot quand il est sur une course, il y a quelque alors, chose
les,
de particulier.
Les caractères sont complètement différents.
Bien sûr.
Julien c'est un bout en train, c'est un mec avec qui tu as envie d'être pote et qui te fait rêver parce qu'il dynamite les courses. Ils ont fait rêver les gens différemment. Thibaut, il a fait rêver les gens parce qu'il a remporté des victoires incroyables, le Tour de Lombardie, les étapes sur le Tour de France. Et il est aussi adulé parce qu'il y a eu ces terribles contre-performances, ce Tour de France qu'il abandonne en 2019, le Giro en 2018. C'est passé par les montagnes russes avec Thibaut Pinot. Ça va faire pleurer Pierre là-bas derrière ses consoles. Julien, c'est différent. Julien, c'est Mister Dynamite, quoi. Mais effectivement, ce sont les deux qui nous ont fait le plus vibrer depuis le retrait de Bernard Hinault. Ça, il n'y a pas à douter là-dessus.
Et j'ajoute, Cyril voulait nous parler de Thibaut Pinot. Je vous le rappelle, à partir de 19h ce soir dans Bartoli Time, une interview avec Thibaut Pinot, lui qui a annoncé la fin de sa carrière à l'issue de la saison. Merci beaucoup, Cyril, d'avoir été avec nous. Benjamin nous appelle également au 32-16. Bonjour, Benjamin.
Salut, messieurs. Salut, mesdames.
Salut, Benjamin. Salut,
Benjamin. Tu veux t'attaquer à qui ce matin?
Comme Cyril, pas quelqu'un en particulier. C'était pour réagir par rapport à Djoko.
Vas-y, on t'écoute. Nous, notre débat, c'était est-ce qu'il va enfin être aimé, lui qui vu sa cote de popularité à la hausse, notamment à l'Open d'Australie, ça s'était mal passé avec lui il y a un an.
Ben, pour moi, oui, parce que Djoko, il a été extrêmement clivant, mais parce qu'il y avait aussi la belle rivalité entre Rafa et Roger. Federer est parti, Rafa, malheureusement, il est vraiment en fin de course. Et là, je pense que justement, en Australie, où il est annulé, sa cote d'amour, sachant que il est quand même fort probable qu'il remporte le tournoi. Sa cote d'amour, elle va repartir à la hausse. Et moi, je pense même que ça va mettre une pression populaire pour qu'il participe à l'US Open, vacciné ou pas vacciné.
Ouais, intéressant.
Et je serais pas surpris qu'il fasse le Grand Chelem calendaire cette année, parce que même s'il y a plein d'autres petits jeunes qui ont beaucoup de talent, et ça, il y a pas de souci. Mais je pense que là, Djoko reste quand même, malgré tout, au-dessus de tout le monde. Et là, sa cote d'amour, je pense que justement, en Australie, il peut pas faire mieux pour repartir à la hausse.
Ok, qui veut réagir?
J'espère que ça fera fléchir les autorités américaines, mais j'en suis pas persuadé. Hein.
Pas du tout.
On a vu justement l'intransigeance des autorités australiennes l'année dernière. Les Américains, ils sont encore plus droits dans leurs bottes, et je pense pas qu'un joueur de tennis, aussi fort qu'il soit, pourra faire changer la politique de santé des États-Unis en matière de Covid. Hein. Ça, je crois pas. Après, si l'évolution de la maladie, si la maladie disparaît d'ici là, mais enfin, j'ai du mal à y croire, peut-être qu'il y aura un changement de politique, mais c'est pas un joueur de tennis qui fera changer de politique aux États-Unis. Ça, malheureusement,
c'est une certitude. C'est pas lui, et même son image, surtout aux États-Unis, peut-être plus en Australie. Mais aux États-Unis, ils s'en contrefichent royalement de l'image qu'ils peuvent
envoyer. Au contraire, si ça peut permettre à un Américain de gagner l'US Open.
Exactement. Ouais, j'avoue. Absolument. J'avoue. Après, c'est plutôt ambitieux et positif de penser qu'il peut faire un grand chelem. Il en a les moyens, c'est certain. Après, moi, je me méfie de la nouvelle génération. Hein. Ils ont vraiment les dents longues.
Ils vont pas lui laisser la place. C'est clair.
Ouais, non. Ils ont les dents longues. Et puis on a des runes. Et puis attention, Alcaraz.
Alcaraz. Là, il est blessé sur le premier trimestre de l'année. Mais il a une fraîcheur que n'aura plus, quoi qu'il arrive, Djokovic à 36 ans. Donc, il va devoir aussi bien calculer son planning et son programme de l'année pour pouvoir arriver prêt dans les grandes échéances. Et ces échéances, c'est vrai que cette année, les défis, ce seront les grands chelems. Mais écoute, si tu penses qu'il peut faire un grand chelem, moi, je suis avec toi. Hein.
Et l'Open d'Australie débute cette nuit. Nous allons suivre
il joue pour un 10e titre. Hein.
Exactement, à l'Open d'Australie.
Une dernière victoire de Nadal à Roland-Garros, non ça?
Oui, on en reparlera, les copains. Merci beaucoup, Benjamin, d'avoir été avec nous et merci de ta fidélité. Et à bientôt au 32-16. Tessa Worley, pour terminer cette émission, son passage c'est dans quelques instants, Arnaud Souk.
Effectivement, sur le Super G de Saint-Anton en Autriche, cette piste de l'Alberg Kandar. Pour l'instant, c'est Marta Bassino qui va en terminer dans quelques instants. L'Italienne, un Super G dominé par Lara Gutberami, la Suissesse devant Federica Brignone et Marta Bassino, justement, qui prend la troisième place à l'instant. Cela veut dire qu'il y a de la place, justement. Il y a de la place pour Tessa Worley. J'ai envie de vous donner des raisons d'espérer. Déjà, elle a terminé quatrième hier du premier Super G couru à Saint-Anton. Et puis, comme c'est un Super G relativement raccourci aujourd'hui à cause des conditions de neige. On a une piste qui est relativement tournante et qui s'apparenterait presque par endroit à un slalom géant. Et on sait que Tessa Worley est vraiment très performante, double championne du monde dans cette discipline du slalom géant, 36 podiums en Coupe du Monde, dont 16 victoires. Donc on va voir ce que cela va donner dans quelques instants pour Tessa Worley. C'est parti pour la Française, pour celle que l'on surnomme la puce du Grand Bornand, qui a fait la saison supplémentaire justement parce qu'elle avait envie de courir les championnats du monde Courchevel-Méribel à domicile dans quelques semaines. Et pour l'instant, ça se passe relativement bien pour Tessa Worley. Le meilleur premier secteur pour la Française, 300e d'avance sur Lara Gutberami, quasiment à mi-course pour Tessa Worley. On va voir ce que cela donne au deuxième intermédiaire. C'est un bon secteur également pour Tessa Worley, qui a 12 centièmes de retard sur Lara Gutberami. Je vous rappelle qu'elle n'est jamais montée de sa carrière sur un podium en Super G. Ça, c'est une superbe prise de trajectoire là sur un endroit où sur cette piste où beaucoup de skieurs se sont faites emporter, justement Tessa Worley qui va arriver au troisième intermédiaire dans quelques instants. 60 centièmes de retard désormais pour Tessa Worley, ce qui la classerait malheureusement en quatrième position si on en restait là dans ce Super G. La partie technique sur le bas de la piste pour Tessa Worley, attention, ça glisse un peu là sur ce pied droit pour Tessa Worley. Elle a dû perdre un tout petit peu de temps sur cette plaque de glace pour Tessa Worley, qui n'a pas réussi vraiment à la maîtriser de bout en bout. Elle va en terminer dans quelques instants, Tessa Worley. Non, malheureusement, ça ne sera pas de podium. Et elle a même perdu beaucoup, beaucoup sur cette erreur qu'elle a commise. 1 seconde 46 de retard et le 12e temps pour Tessa Worley à l'arrivée.
Merci beaucoup Arnaud Souk. D'autres informations à suivre évidemment toute la journée sur RMC, notamment la deuxième manche du slalom avec toi, le slalom de Wengen. Merci à toutes les équipes techniques qui ont permis ce week-end magnifique sur RMC. Dimitri Grossi, Rémi Soula, Bruno Fontaine. Merci à Pierre Amiche, Kylian Vérov à la production, Sébastien Dupré à la réalisation et l'Alpe d'Huez au reblochon. Et merci à vous, mes chers GG, d'avoir été avec nous. Je vous embrasse très fort.
Salut,
on se retrouve la semaine prochaine à partir de 9h samedi matin dans quelques instants, les paris RMC. À tout de suite avec toute la Dream Team des paris.